Chapitre 29. Impossible. Ça bougeait enfin, putain. Les doigts de Paul tremblaient si fort, le café, l'excitation, qu'il éprouva toutes les peines du monde à insérer la carte micro SD dans son adaptateur. Quand il y parvint enfin, il brancha l'appareil à son ordinateur. Paul s'était enfermé dans son bureau et avait baissé les stores. Hormis le gendarme de permanence à l'accueil, il était seul dans les locaux. Il détenait, selon toute vraisemblance, la carte mémoire de la caméra numérique de Julie Moscato, celle qu'il n'avait pas retrouvée pour cause. Damaeus avait précisé ne pas avoir tenté de lire son contenu de peur de l'endommager. Une fenêtre s'afficha sur l'écran. La carte contenait deux vidéos. L'une datant du 13 septembre 2007, l'autre du 4 février 2008, soit un mois avant sa disparition. Paul copia aussitôt les fichiers sur son disque dur, terrorisé à l'idée de perdre les données. Il ne respira plus le temps que la barre de progression atteigne 100%. Le transfert sembla se faire sans anomalie. Il déglutit, puis lança la vidéo de septembre 2007. Depuis 12 ans, la carte reposait dans le bijou, et un tas de raisons auraient pu causer un dysfonctionnement. Pourtant, une aube lumineuse dansa sur le visage de Paul quand le film en couleur se mit à défiler devant ses yeux. La caméra avait été posée sur la selle d'un vélo. On devinait, légèrement flou, un morceau de guidon sur la gauche. Son VTT, songea Paul. Le temps était clair et des pins sylvestres striaient le champ de vision. Une forêt, le bruissement du vent dans les branches, le cri d'un oiseau. La caméra bougea encore avant que Julie n'apparaisse, son sac à dos dans la main. Le cœur de Paul se serra. Il imagina l'émotion de Gabriel s'il revoyait si abruptement sa fille. Julie portait un cuissard, des baskets fluo et un haut de cycliste en nylon bleu. Elle déplia une mini-pelle de camping et creusa un trou d'une quarantaine de centimètres de profondeur. De son sac, elle sortit une boîte, un genre de petit coffre en fer, qu'elle abandonna à la terre. Puis elle décrocha le pendentif de son cou, ce même pendentif posé à côté du clavier. Agenouillée, elle se pencha sur le trou, la chaîne suspendue au bout de ses doigts. Elle pleurait. Paul percevait ses sanglots par à-coups, de petits cris d'animal. Mais lâcher le bijou sembla trop dur pour elle. Elle le remit autour de son cou avant de reboucher le trou contenant la boîte, de tasser correctement la terre et de répartir les aiguilles de pin au-dessus. Sur l'arbre au pied duquel elle se trouvait, elle gratta l'écorce avec la pointe d'un couteau suisse jusqu'à le marquer d'une croix bien visible. Puis elle revint vers la caméra et fit un panoramique. Des arbres, encore des arbres, à perte de vue. Un sentier plus loin, en pente. Une succession de gros rochers dont l'un en forme de menhir devait faire 2 mètres de haut. Elle zooma sur ces rochers, puis refit un panoramique en direction de l'endroit où elle avait creusé. Elle mémorisait le chemin. Fin du film. Le gendarme resta immobile devant son écran. Voilà plus de 13 ans, une adolescente visiblement en détresse enterre une boîte en fer. Elle est sur le point d'y ajouter un pendentif, mais décide de le garder et d'y dissimuler le film lui permettant de retrouver sa cachette. Qu'as-tu confié à la forêt, Julie ? Peut-être la jeune fille avait-elle voulu se débarrasser d'affaires sans y arriver vraiment. Alors elle s'était assurée de pouvoir les récupérer un jour, au cas où.
Au cas où quoi ?
Il enchaîna sur le second film, celui du 4 février 2008. L'heure, en bas à droite, indiquait 23h55. Changement d'ambiance. La pluie, les ténèbres. Une image qui tressaute, la caméra qui tangue. Quelqu'un tenait l'appareil à l'extérieur sans le son. Des fines gouttes troublaient l'image. Un chiffon s'approcha de l'objectif, provoqua un noir, et l'image fut ensuite plus nette. La caméra était orientée vers une vitre d'où émanait une lumière malgré des rideaux tirés. Tout était trop près, trop sombre pour que Paul reconnaisse des détails. Au bout d'une minute, l'un des rideaux s'écarta et libéra une bande de clarté. L'individu qui tenait la caméra avait alors sursauté. Paul fronça les sourcils. L'objectif s'immissa dans l'ouverture entre les rideaux, opéra un léger balayage jusqu'à se focaliser sur un dos nu. L'eau perlait sur la fenêtre, mais n'empêchait pas de discerner de longs cheveux d'un blond platine qui ruisselaient jusqu'au bas des reins de la fille. Elle était assise sur un lit, à califourchon au-dessus d'une silhouette impossible à distinguer à cause de la position et de l'angle de vue. Mais c'était celle d'un homme. Le faible éclairage orangé devait provenir d'une lampe de chevet. Le dos se cambrait, les cheveux dansaient, le corps, une fille très jeune à l'évidence, décrivait des arabesques brûlantes. La main droite de l'homme s'agrippait au drap. Dans un mouvement brusque, la chevelure platine sembla se détacher du crâne et glisser vers l'arrière. La fille la rattrapa de justesse pour la remettre en place, une perruque. Soudain, deux reflets blancs illuminèrent la vitre. Il n'y eut plus que le sol dans le champ. Le caméraman se déplaçait à vive allure sur du gravier, se baissa et s'arrêta. En biais, on apercevait des roues de voiture. Les lueurs blanches finirent par disparaître. Au bout d'une minute, l'appareil se redressa et filma droit devant. Paul eut la respiration coupée quand il découvrit le plan général des lieux. Ça se déroulait à l'hôtel de la Falaise, depuis l'une de ses chambres au rez-de-chaussée donnant sur le parking. Les doigts du gendarme se crispaient sur la souris. La personne qui enregistrait avait dû être surprise par l'arrivée d'un client avant de reprendre sa position contre la fenêtre. De l'autre côté de la vitre, les deux individus faisaient l'amour. La pluie, l'hôtel miteux, le voyeurisme par la fente entre deux rideaux, tout cela était épouvantable. Paul se sentait mal mais n'en perdit pas une miette. Derrière cet enregistrement se cachait peut-être une partie d'une énigme datant de 12 ans. Une dizaine de minutes plus tard, la jeune femme au dos luisant se leva et sortit du cadre. Le gendarme avait le nez collé à l'écran. Il remarqua qu'elle faisait attention à ne pas être vue de face. S'agissait-il de la fameuse Wanda Gerschwitz? À moins que ce ne soit Julie. Cet homme lui avait-il offert le pendentif? Ou alors était-ce Julie qui tenait la caméra? Une fraction de seconde, il pensa que Louise pouvait se trouver derrière l'objectif. Il rejeta cette idée ignoble. Une lumière plus vive jaillit alors dans la pièce. L'homme appuya ses mains derrière lui, sur le matelas, le front en sueur. Un vaste sourire sur sa face rougeaude. Il y eut un zoom sur lui de 3 secondes avant la fin du film. Paul resta abasourdi quand son écran fut redevenu noir. Cet homme, c'était le propriétaire de l'hôtel. C'était Romuald Tanchon.